Alors, il existe des phrases dans la Bible qui la résument bien, qui résument pour certaines toute la Bible. Voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par exemple. Annonce magistrale de la préparation de la venue du Messie dans l'Ancien Testament et le don de sa vie sur la croix pour l'expiation de nos péchés. Vous m'entendez bien ? C'est bon. Okay. Une autre bien connue, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset à lui seul développe le dessein de Dieu depuis avant la fondation du monde jusqu'à la vie éternelle. Remarquable. Bien d'autres pourraient être cités. Celui que je vous propose de voir concerne la relation du Seigneur avec le croyant et dans le fond la résume parfaitement. On se trouve tous un jour ou l'autre dans des situations difficiles, pénibles, inquiétantes. Dans ces moments, et c'est mon cas, mon réflexe est de me dire « L'Éternel est mon berger ». À mon niveau, je me sens dans l'incapacité de résoudre les situations dans lesquelles je me trouve, qui m'affectent. Et il me semble que le temps et les circonstances doivent faire leur œuvre. Dans cette attente, il me reste l'Éternel à qui me confier. Je pense que nous pouvons tous passer par des moments tels que celui-là. Il ne s'agit pas là d'une formule magique, telle qu'on l'entend parfois, mais cette formule est un appel. Un peu comme l'appel d'une brebis égarée, et cet appel est entendu. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, ou je ne manque de rien. Par la méditation qui va suivre, je vous invite à considérer la relation privilégiée du Seigneur avec le croyant. Notre texte, un verset ou la moitié d'un verset, je l'ai dit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 23 et d'y rester si vous le souhaitez. Je ne sais pas quelle était l'intention du roi David en écrivant ce psaume, mais on peut le discerner quand on sait quel roi il était. Vous le verrez, mon approche n'est pas une explication de texte. J'ai voulu placer ce psaume dans une dimension de gloire à venir. Je ne sais pas si j'ai réussi. Verset 1a, l'Éternel est mon berger. À lui seul, ce verset est une explosion de foi. Et il révèle une relation spéciale entre le croyant et son Dieu, l'Éternel. Cette méditation ce matin peut être aussi la vôtre. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous ici ? Un auteur du nom de Derek Kidner dit ceci de ce psaume. La profondeur et la force en soutiennent la simplicité. Sa paix n'est pas une fuite, son contentement n'est pas de la suffisance. On y trouve l'aptitude à affronter l'obscurité profonde et l'attaque imminente. Et l'apothéose révèle un amour qui n'est dirigé vers aucun but matériel, mais vers le Seigneur lui-même. Le titre donné à cette méditation est « Jésus est à moi ». Et elle comporte trois aspects de la relation avec lui. Tout d'abord, c'est une relation rassurante. L'Éternel est mon berger. Ensuite, c'est une relation personnelle. L'Éternel est mon berger. Et pour finir, c'est une relation actuelle. L'Éternel est mon berger. C'est une relation rassurante. L'évocation même du berger est rassurante. La brebis a confiance dans celui qui la dirige, qui la conduit. Elle sait qu'il ne la laissera pas tomber. Et si elle se perd, il la cherchera sans cesse dans les moindres recoins. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. On trouve ça dans Ésaïe chapitre 40, verset 11. La Bible parle des bons, mais aussi des mauvais bergers. Les mauvais bergers sont des mercenaires qui sont à la solde d'un propriétaire peu scrupuleux et ils ne perçoivent de leur travail que l'aspect financier. Qu'un danger vienne apparaître et ils s'en vont laissant le troupeau sans surveillance et à la merci des prédateurs. J'ai récemment vu un reportage sur un berger en Corse. Ce dernier passait des semaines dans la montagne avec son troupeau, seul, avec ses chiens, ou parfois avec d'autres bergers. Ses brebis le connaissaient bien, et elles interagissaient à sa voix. Jésus dit : « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 11, il poursuit « Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit. » Car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Jean chapitre 10, du verset 11 à 14. Dans ce psaume, donc le psaume 23, David use de l'image la plus étendue et la plus intime que l'on ait rencontrée dans les psaumes. Habituellement, il utilise les mots de roi ou de libérateur, qui sont un peu plus distants, ou encore les termes impersonnels de rocher ou bouclier. Non, ici, le berger vit avec son troupeau qui en dépend totalement. Il est leur guide, leur médecin et leur protecteur. C'est une relation personnelle. L'Éternel est mon berger. Même s'il appartient à d'autres, il est aussi mon berger, c'est le mien. Nous disons volontiers, c'est mon Dieu. Thomas s'est exprimé ainsi en voyant les marques des clous et de la lance dans le corps de Jésus après sa résurrection. Mon Seigneur est mon Dieu. Nous pouvons tous, si nous sommes à lui, dire mon Seigneur est mon Dieu. Jésus est mon berger, Jésus est à moi. Alors, non dans le sens d'une possession obsessionnelle, nous accaparant pour nous-mêmes Jésus et empêchant toute autre personne de le prendre. La réalité est tout autre. Jésus est à moi, comme il est aussi à tout autre qui a foi en lui. Jésus est à moi, car il est mon berger, mon sauveur, mon roi, mon Dieu. Et Jésus dira à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On pourrait dire des millions ou des milliards de personnes après Thomas. Cette relation toute personnelle engendre la confiance. La brebis peut se trouver dans la crainte si elle se trouve seule, mais le simple fait de voir la houlette et le bâton la rassure, car elle a confiance dans son berger. Pour chacune et chacun de nous, il en est de même. La confiance naît d'une relation privilégiée avec l'autre. On sait qu'il ne nous décevra pas, on sait qu'on peut compter sur lui. On sait qu'il nous dira la vérité. On sait que même s'il est à même de nous faire des reproches pour un comportement déplacé, il conservera une amitié sans faille, car il y a un rapport de corps et de sentiments qui persiste toujours. Jésus aurait pu reprocher à Thomas de ne pas avoir cru. Non seulement ses frères, qui lui ont rendu témoignage de ce qu'ils avaient vu, mais il a vécu avec Jésus pendant 3 ans avant ce moment-là. Et Jésus avait annoncé sa résurrection. Il avait annoncé sa mort et sa résurrection. Au contraire, il est plein de compassion pour lui. Le « ne sois pas incrédule » de Jésus est plein de compassion pour l'humain au corps tortueux. Ne sois pas incrédule. Cette relation personnelle va jusqu'à faire dresser un repas, enfin un festin, de joie par David. On le voit dans le texte. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dans la tradition israélite, le festin est un signe de loyauté réciproque avec l'autre. Le festin est aussi porteur de joie. Apocalypse, chapitre 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Ou encore, en Ésaïe, chapitre 25, verset 6, « Sur cette montagne, montagne de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. » Un festin de bon vin, de plats succulents, il le répète, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. C'est là le pas encore de l'Éternel, mais n'est-ce pas le déjà là? C'est une relation actuelle. Nous avons tous vu, il y a peu ou encore même ces jours, cette publicité pour la vaccination. Nous avons remarqué le lien qui se trouve entre l'imagination de la vieille dame et la réalité à venir qui se trouvait dans la conséquence bénéfique de la vaccination. Vous vous remémorez ce... Cette dame se trouvait dans le déjà-là et dans le pas encore. La réalité à venir, bien que dans l'imagination, était déjà là, et pourtant pas dans les faits vécus. En fond musical, une chanson de Gilbert Bécaud qui martèle le désir des uns et des autres, de la grand-mère et de ses petits-enfants, « Je reviens te chercher, Je savais que tu m'attendais. Il y a dans cette illustration quelque chose de profondément vrai et biblique. La confiance fait naître l'espoir. La douleur du moment présent laisse place au réconfort et au bonheur d'un avenir meilleur. La foi fait naître l'espérance et elle active notre vision lointaine. Nous voyons déjà là de loin ce que nous vivrons alors. Si un simple vaccin donne de l'espoir à toute une population d'avoir de nouveau une vie normale, à combien plus forte raison la foi dans l'Éternel peut donner une espérance sans limite. Comme dans la pub pour le Covid, la foi dans le vaccin redonne l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est légitime. La foi dans notre Créateur nous donne une espérance sans mesure. Et elle n'est pas vaine, car porteuse d'un bonheur sans fin. Nous sommes, nous aussi, dans le déjà-là de notre foi et dans le pas encore de notre espérance. L'Éternel est, avec un grand est, mon berger. Il l'est maintenant si nous sommes à lui. Il l'est dès lors que nous venons à lui. En lui, nous sommes sauvés. Déjà maintenant, nous sommes dans une relation actuelle, vivante. Nous avons dès maintenant la vie éternelle. Ce n'est pas à venir, c'est déjà là. Nous sommes délivrés de nos péchés. Nous sommes en Christ. C'est lui qui vit en nous et nous en lui. Ce n'est pas à venir, mais déjà là. Notre futur est déjà commencé. Notre passé est entre ses mains. Et Jésus en a rayé tous les mauvais de nos cœurs et de nos actions en souffrant sur la croix. Certes, nos corps de chair devront passer par un renouvellement, une transformation nécessaire, et l'œuvre de Satan et de ses acolytes sera alors annihilée pour toujours. Et notre péché ne sera plus, et la mort non plus. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, alors qu'il évoque la résurrection, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 50 à 54. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Et nous l'avons vu aussi juste avant, dans une lecture précédente, en Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8, je le répète, « Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. » Décret de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Certaines traductions, comme la Semeur, ont oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. David ne conçoit pas le bonheur sans être dans la présence du Seigneur. C'est là une sagesse qui se fonde sur la crainte de l'Éternel, une crainte respectueuse. Jésus est à moi dès maintenant et pour toujours. Je suis à lui dès maintenant et pour toujours. Notre pas en cœur est une certitude et il est géré par Dieu lui-même. Nous ne sommes pas des inconnus, car il nous connaît d'avant la fondation du monde. De toujours, il nous connaît. Et déjà, il se réjouissait du moment que nous ne connaissons pas encore. Alors soyons-en sûrs, il va arriver ce moment. Notre relation avec l'Éternel, Jésus, est actuelle. Et Jésus revient nous chercher, car il sait que nous l'attendons. Je vous invite à prier. Tu es le bon berger, Seigneur, le berger qui s'occupe de ses brebis, le berger qui s'occupe de nous. Tu es là tout près à nous conduire. Tu es venu, quittant le ciel de gloire où tu étais, pour nous sauver, pour nous délivrer de notre misère, de notre péché, du péché. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Tu es ce bon berger qui nous conduit. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs, tu as touché nos vies. Tu as mis au plus profond de nous ton esprit qui nous conduit. Et nous savons où nous allons avec toi, parce que nous suivons le bon berger que tu es. Et nous voulons t'en louer, Seigneur. Amen.